Session de philosophie sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet de l'an 2001 à Saint-Jeaudard.
Malgré la chaleur, j'espère que vos intelligences sont au-dessus de la matière et donc au-dessus de la chaleur et que nous pourrons arriver au point le plus délicat, le plus important, pour voir comment l'intelligence humaine peut, par la fumée, affirmer qu'il y a du feu. Par une créature d'une noblesse étonnante et d'une limitée pascale, il avait bien saisi ça, d'une fragilité si grande, et témoin de l'existence d'un Dieu créateur. Vous savez, c'est en découvrant la grandeur, et la grandeur la plus grande d'une œuvre de Dieu, que nous pouvons affirmer l'existence d'un Dieu Père, Créateur et Père. Et c'est ça qui est si intéressant dans cette recherche. On fait quelquefois des promenades, des marches énormes, montées très haut. Les gens qui ont fait l'escalade de l'Himalaya, c'est toujours très intéressant de voir ça, pour voir le lever de soleil. On monte très haut pour voir le lever de soleil. Récemment, on était à Vézelay, je voyais un frère qui me disait qu'il était monté tout en haut du clocher pour voir le lever de soleil. Alors moi, je pense qu'on va très loin pour voir le lever de soleil. Le soleil spirituel, c'est Dieu. Voir dans notre âme le lever de soleil, c'est palpitant, ça. C'est merveilleux. On affirmera que ce qui existe, maintenant, je ne peux pas nier mon existence. Je ne peux pas nier l'existence de mon ami. Je ne peux pas nommer qu'il est et que je suis avec lui. Et qu'existe cet amour. Tout ça, on ne peut pas le nier. C'est évident. On a fait cette expérience plus ou moins forte, mais on a pu faire cette expérience. Et quand on voit des amis, on voit bien qu'ils font cette expérience. Et que, voyant cette dignité si grande de l'ami, c'est l'ami qui découvre la dignité de son ami. Ce n'est pas moi. Je découvre toujours dans mon ami quelque chose qui est plus grand que moi. Autrement, ce n'est pas mon ami. Et ça, c'est capital. Hein. Si je découvre, oui, très bien, oui, ça va bien. Ah, tu es très gentil, très gentil. Alors c'est des enfants, c'est gentil des enfants. Mais l'ami, je l'aime parce qu'il a une dignité plus grande que moi. Il a une taille spirituelle plus grande que moi. Et je l'aime parce qu'il a cette taille. Je suis tendu vers lui parce parce qu'il a cette taille. Vous voyez, ce qui nous empêche d'aimer vraiment, c'est notre égocentrisme. Plus ou moins larvé. Nous trouvons que nous sommes très bien. Je connaissais ce garçon qui me disait que tous les matins, il était une demi-heure devant sa glace. En souciant, il était le plus beau des enfants des hommes. Et il se fatiguait jamais de regarder ça. Et ça lui était de bonne humeur, ça. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, pauvre type. Alors ça, il croyait que j'allais lui dire, c'est pas étonnant, j'ai tué tellement bien. Non, je lui ai dit, pauvre type. Il n'y a personne au-dessus de toi. Tu n'as jamais entré en quelqu'un qui était plus grand que toi. Pauvre type. Alors quand je lui ai répété 3 fois, il a commencé à dire, c'est peut-être vrai ce que tu me dis. C'est vrai que l'ami, c'est quelqu'un de plus grand que moi. Et je le sais. C'est quelqu'un qui est plus grand que moi. Et c'est parce qu'il est plus grand que moi qu'il m'attire et que je suis comme attiré vers lui. Et je suis devant quelque chose, une réalité qui existe et qui est étonnante. Je suis en admiration. Vous savez, c'est une des choses qu'il faut cultiver dans sa vie. Garder le sens de l'admiration. Comme ça, on ne vieillit pas. Je peux vous le dire, ça. Parce que moi, je devrais vieillir. Hein. On ne vieillit pas. Tant qu'on admire, on ne vieillit pas. Quand on est blasé, on est retourné sur soi. Il y a un sens d'admiration dans l'ami. On est toujours dans ce sens d'admiration qui nous fait voir ce qu'il y a en lui de plus grand. Aristote soulignait l'importance de l'admiration. Parce que l'admiration fait poser des questions. S'il n'y a pas d'admiration, on ne pose pas de questions. Et si on ne pose pas de questions, on ne découvre rien. Quand on pose des questions, on découvre, on cherche. Et l'admiration nous fait poser des questions. C'est très important, ça. Ne pas être blasé. Et on l'est facilement dans notre monde d'aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'il y a de plus malheureux dans notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus d'enfants. On le dit de temps en temps. Quand on voit des vieilles grand-mères et qu'ils voient leurs petits-enfants, il n'y a plus d'enfants aujourd'hui. Ces enfants vous posent des questions. Elles sont en admiration devant l'enfant. Mais l'enfant n'est pas en admiration de sa grand-mère. Oh non, elle est vieille. Elle est vieille. Elle n'a pas découvert ce qu'il peut y avoir d'admirable dans le visage d'une grand-mère. Admirable qui suscite l'admiration. On ne peut découvrir Dieu lorsqu'on est en face de ce qu'il y a de plus admirable et qu'on découvre à côté une fêlure. Dans la même réalité, dans la même personne. Et on se dit, comment ça se fait ? Parce que Dieu, c'est la réunion. L'être premier. Vous voyez, ça m'a toujours beaucoup étonné que saint Thomas, à 24 ans, il a raisonné, c'est dans le DNT Essentia, c'est le petit fascicule DNT Essentia, il a voulu se poser la question, si Dieu existe, il savait très bien que Dieu existait, comme croyant, mais il posait cette question, si Dieu existe, qu'est-ce qu'il doit être? C'est beau comme question. Et j'ai le droit de me poser cette question. J'ai le droit de faire cette hypothèse, elle est très noble. Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit réunir en lui ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus intelligent et de plus acte existant. La nécessité dans l'acte d'être, l'exister. Quand vous posez le jugement d'existence, hein, votre intelligence touche un être contingent qui pourrait très bien être autrement, mais qui existe. Le crapaud existe. C'est curieux, ça existe. Le mouton existe. L'homme existe. C'est vrai. Il existe, donc il est en acte. En acte d'être. Son existence, c'est ça, c'est l'être d'âme. Il est en acte d'être. Mais il reste contingent, en ce sens que le crapaud, si je le suis assez longtemps, il va crever. Pauvre type. Donc, c'est très intéressant. Mais cet acte d'être est dans une contingence que je peux constater. Cet acte d'être est dans une limite que je peux constater. Vous voyez, alors, j'ai le sens de l'être en acte lié à la contingence. Si Dieu existe, il est un être qui ne peut pas disparaître. Il est un être éternel. Autrement, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas le premier. Le premier, s'il existe premier, il ne dépend de personne. Il n'y a pas un être qui l'a fait exister, il est par lui-même. Chose invraisemblable, mais c'est ça, il est par lui-même. Nous tous, nous existons grâce à d'autres, grâce à nos parents et grâce à Dieu. Mon âme vient de Dieu et mon corps de mes parents. Et puis il y a eu un confluent entre les deux, une rencontre entre les deux, voulue par la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui m'a fait exister. Et je reste un être contingent. Un jour je mourrai. Je le sais. Il y a une fêlure. Kierkegaard qui dit ça. Il y a une fêlure en moi. En chacun d'entre nous, nous sommes fêlés. Notre être est fêlé, pas notre intelligence, hein, mais notre être est fêlé. D'habitude, vous dites, tu es une espèce d'imbécile, tu es complètement fêlé. Mais alors, on rejette ce qui est vrai de l'être sur l'intelligence. Ah, ça ne fait pas plaisir. Alors que réellement, on est un être fêlé. Puisque un jour ça va casser. Ça va casser. On ne pourra plus se lever. Parce qu'on est fêlé dans notre être. les réalités que vous expérimentez sont ça. Si Dieu existe, hypothèse, si Dieu existe, peut-être qu'un être non fêlé, en lui, l'essence, alors ça c'est le philosophe qui parle, l'essence et l'existence sont un. L'être de Dieu est un. Si Dieu existe, il est un être tout à fait simple. Et il ne peut pas être autrement, il ne serait pas Dieu. Il dépendrait d'un autre. Comment unir la plus grande noblesse, la plus grande qualité, l'acte d'être, avec une fêlure? C'est pas moi qui me suis collé à mon corps. De temps en temps, j'aimerais mieux d'avoir le corps de mon voisin. Ouais, ça fait partie de ces rêves qu'on peut avoir. Ces rêves étonnants. Ouais. Et puis, quand mon corps vieillit, il faudrait peut-être changer de modèle. Le modèle, j'aimerais d'avoir un plus jeune. Je peux pas. Comment ça se fait que je suis collé à ça? J'ai une noblesse, je le sens bien, d'être. J'existe, je suis en acte. Et là, j'ai l'indépendance. Et pendant, je suis fêlé. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est nécessairement un autre. Il n'y a que celui en qui l'être est absolument simple qui peut être un. Nous nous sommes composés. Même mon ami que j'aime, sa simplicité, mais il est composé et c'est chez lui que je vois le mieux cette composition. Je vois la terreur, cet ami que j'aime, il peut mourir. J'aimerais mieux mourir que de le voir mourir parce que je l'aime. Et sa mort dans mon ami est plus proche de moi que ma propre mort. Je saisis dans l'ami ses qualités étonnantes et sa fragilité. Si Dieu existe, en lui, il y a l'unité parfaite entre l'essence et l'existence. Saint Thomas a fait ce raisonnement-là pour essayer de comprendre comment je puis atteindre Dieu. Autrement dit, la signature. Vous savez, il y avait au Moyen-Âge des artistes qui signaient leur œuvre, non pas du tout en mettant leur nom, mais en mettant un petit oiseau. Il y avait à Fribourg, comme ça, des très beaux tableaux splendides. C'était le maître de l'oiseau. Il mettait un petit oiseau. C'est sa signature. Est-ce que vous n'êtes jamais posé quelle est la signature de Dieu sur vous? Si vraiment vous venez de Dieu, il a dû signer, quoi. Il a dû signer son œuvre. Quelle est la signature de Dieu? Moi, je me suis posé longtemps cette question. Des années, des années. Où trouver la signature de Dieu? La trace de Dieu. Dans un être humain. Dans mon ami. On doit pouvoir découvrir ça. Dieu, s'il existe, c'est l'être premier. C'est l'être qui ne dépend d'aucun autre être, qui est absolument simple. Je ne peux donc saisir Dieu que par l'être en acte. puisqu'il est en acte parfait. En moi, la signature de Dieu, ah, quelle est la signature de Dieu en moi? C'est mon existence. Tiens. Et dans mon ami, c'est son existence qui est la signature de Dieu, l'être en acte. Mais je ne suis pas Dieu, je dépends de lui, et par le fait même, cette signature de Dieu qui est mon existence, elle est dans un être limité. J'existe en acte et je suis limité. Alors, je vais me servir d'un levier. Vous savez, quand il y a des grosses pierres à lever, on prend le levier et on arrive à le lever. Tandis que si on la prenait corps à corps, on n'arriverait pas du tout. Quel est le levier? Ah, c'est le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend d'un être en acte. Et ça, je peux en avoir l'évidence. J'ai fait tout le cours de métaphysique cette année-ci à mes étudiants, à mes frères, pour mettre en pleine évidence ce principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend de quelque chose qui est en acte. L'imparfait dépend du parfait. C'est vrai, ça. Vous n'avez jamais vu l'inverse. Vous n'avez jamais vu le parfait dépendre de l'imparfait. Quand vous êtes parfait, vous êtes indépendant. Quoi. Tandis que quand vous commencez à avoir un bras qui commence à être dur à lever, ah, vous avez quelqu'un pour vous lever. Tout être parfait est indépendant. Mon indépendance, je sais très bien ce que c'est qu'on indépendance. Et je sais très bien ce que c'est que ma dépendance. J'ai un champ d'indépendance qui grandit. Et qui grandit suivant ma connaissance. Moi, je m'en aperçois très fort au moment des élections. Ne faisant pas de politique, pourtant je dois voter. Et je dois voter bien. Alors qu'est-ce que je fais? Je demande à quelqu'un, un ami, qui lui suit la politique. Et je lui dis, ce candidat, qu'est-ce qu'il vaut? Comme homme. Ça m'est parti, ça m'est égal. Qu'est-ce qu'il vaut comme homme? Est-ce qu'il a le sens de la grandeur de l'homme? Ou il rapetisse l'homme? Je suis dépendant de lui. Je ferai de la politique. Je voterai de moi-même. Et je serai absolument indépendant d'un autre. Tandis que si je suis conscient que je ne fais pas de politique et donc je ne connais pas les candidats, je demande à quelqu'un que j'aime la valeur de ces candidats et je suis son conseil. Je fais ça pour la politique et je ne fais pas ça pour des choses beaucoup plus importantes. C'est drôle, ça. Alors que on devrait faire ça constamment. On sait qu'au point de vue intelligence, notre intelligence n'a pas pu se développer pleinement. Elle s'est arrêtée à un moment. Elle s'est arrêtée parce que les conditions de la vie m'obligeaient de mettre la main à la pâte, de prendre un métier qui rapporte quelque chose. Alors que si je cherchais uniquement, ça ne rapportait rien du tout. Ça me donnait des joies énormes. Mais il fallait faire quelque chose, gagner sa croûte. L'imparfait dépend du parfait. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Principe de finalité tout ce qui est imparfait. Alors, vous voyez bien, dans l'ami, je découvre que cet ami est merveilleux. Il est merveilleux. Il est intelligent. Il a du cœur. Il est capable de soutenir. Il a une vitalité merveilleuse. Et ses passions, elles existent. Parce que c'est terrible d'avoir un ami non passionné. On a envie de marcher sur ses doigts de pied pour le réveiller. Un ami non passionné. Tandis passionné, il est passionné, mais il sait résister à ses passions. Il se met en colère que lorsque c'est nécessaire. Et la même chose pour tout le reste. Il est mesuré. Et pourtant, cet ami, il change. Il était si bien à 45 ans. Il était si bien à 55 ans. L'acmé, le sommet. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est arrivé à son sommet. Il baisse un peu. Il n'a plus la même vigueur. On voit sa fragilité. Je m'aperçois que cet ami qui est tellement parfait, cependant, il y a des limites. Comment se fait-il que cet ami parfait a ses limites ? Je l'aime pourtant. Et ses perfections m'attirent. Je n'en ai jamais vu de plus belle que celle-là. Il m'attire. Et je suis obligé de reconnaître qu'il est limité. Même dans son intelligence, même dans sa volonté, il est limité. Dans son esprit, il est limité. Et pourtant, c'est si lumineux. Et c'est si bon, si aimable. Ce dualisme que je reconnais chez l'enfant, mais c'est normal chez l'enfant, mais chez un homme parfait qui est à son sommet, de voir qu'il diminue. Alors, tout ce qui est parfait, tout ce qui est imparfait dépend du parfait. Si donc cet être parfait connaît de telles imperfections, il faut nécessairement qu'il y ait un être plus que lui. D'où viennent toutes ces perfections? Et que ces perfections, si grandes qu'elles sont, bien, sont imparfaites, elles dépendent d'un autre. Vous voyez, dans un ami, on peut très facilement comprendre son indépendance dans son être. Il a une indépendance très grande, grâce à ses connaissances, grâce à la grandeur de son cœur. Et cependant, il n'en peut rien. Il est limité. Il est imparfait. Il n'est pas absolument parfait. Tout ça, je le constate. Alors, je le regarde dans la lumière de la causalité finale. Saint Thomas a raison. Seule la causalité finale me permet d'atteindre Dieu. Dans mon être, je suis limité. Et pourtant, mon être, j'existe. et je suis magnifique dans mon être. Et je suis limité. Tout ce qui est limité dépend du parfait. Il y a donc, avant lui, et dépend, donc avant lui, un être qui est parfait. Alors vous voyez que la perfection de mon ami est bien pour moi le témoignage de la perfection de Dieu. Et sa limite m'oblige de poser un autre que lui. Je ne peux pas m'arrêter à lui parce que sa perfection, son être est limité. Vous voyez comment l'expérience de l'ami, qui est la plus belle expérience que peut faire, parmi les réalités existantes, celle que je constate, est comme une espèce de tremplin pour affirmer l'existence de Dieu, en me servant de ce principe de finalité, tout ce qui est imparfait dépend actuellement, tout ce qui existe étant imparfait, dépend actuellement d'un être parfait. Cet être parfait, je ne le vois pas, mais j'en suis sûr qu'il est. Sûr de la certitude que j'ai de l'existence de mon ami et de la perfection et de sa limite. Voyez comment l'ami, et je prends l'ami parce que c'est là où le lever de soleil est le plus éclatant, le plus merveilleux. Je vois comment l'existence de mon ami est pour moi l'exigence de poser une réalité qui, elle, est plus intelligente que mon ami, plus meilleur que mon ami, plus un que mon ami. Je peux, à ce moment-là, reprendre toutes les expériences que saint Thomas avait prises pour les cinq voies. L'expérience de ce qui est mu, l'expérience de ce qui se meut, l'expérience de ce qui est possible d'exister, mais n'existe pas nécessairement. L'existence du plus et du moins dans l'ordre de l'être, l'existence de l'amour. Dans mon amour pour mon ami, si c'est vraiment l'acte le plus parfait, c'est en même temps l'acte le plus radical. Quand je commence à aimer quelqu'un, c'est plus fort que moi. Pourquoi aimez-vous telle personne et pas telle autre ? Les philosophes se sont posé cette question, alors ils racontaient les atomes crochus. C'est de la bonne blague, ça. Pourquoi aimez-vous telle personne ? Vous êtes attiré. Je suis séduit. Mais non, vous n'êtes pas séduit, vous êtes attiré. C'est plus fort que vous. C'est instinctif. C'est vrai, c'est instinctif. Il y a donc quelqu'un de plus grand que vous qui a mis en vous cet appétit, cet ordre que vous ressentez en vous. Vous ressentez en vous cet ordre. Et cet appétit premier, vous pouvez très bien l'oublier. Non, je n'en occupe pas. Je me souviens d'un exemple. C'était la première fois que j'allais en Grèce. Et comme j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup la philosophie grecque, j'étais très heureux. C'était une invitation. J'étais à Fribourg et c'était l'université d'Athènes qui invitait l'université de Genève. Et comme j'avais des amis qui étaient à Genève, ils venaient avec nous. Je n'ai pas hésité d'y aller. Et j'avais un ami sculpteur qui était avec moi. Lui aussi aimait la Grèce follement. Et vite, on a quitté Athènes pour aller dans les îles pour trouver le type grec dans sa pureté. Ah, j'étais un dominicain. Lui était en Pékin. Puis tout d'un coup, je reçois un coup de coude dans la poitrine, très violent. Il se tourne vers moi. Regardez cette déesse. C'était une jeune fille qui avait des yeux admirables. C'est vrai, des yeux admirables, des yeux grecs. Et lui, en sculpteur, était presque en pamoison, en extase. Vous comprenez que moi, avec ma robe dominicaine, je ne pouvais pas avoir... Mais il m'avait tapé suffisamment fort pour que je regarde. Et c'était vrai, elle était très gênée, vous l'avez vu, subitement, je regarde. Vous voyez, cette espèce, c'est pas une séduction, c'est un premier amour, comme ça. Et il avait sculpté longuement, il avait trouvé la sculpture grecque très belle, très pure, très limpide. Alors revoir ça, non pas en sculpture, mais en réalité vivante. Je comprenais très bien son émoi, c'était très normal. On est pris au vif. Et cet amour peut grandir, peut devenir un amour d'amitié quand il est réciproque. Là, il n'était pas réciproque, puisque cette femme ne s'est pas retournée en disant « Ah, voilà des yeux, ce regard parisien. Ce regard, je ne vois. » Non, elle ne disait pas ça. Elle était étonnée, gênée, qu'on la regarde. Pour que cet amour premier puisse prendre tout, s'approfondir, et surtout grandir. Il faut qu'il soit réciproque. C'est très étonnant. Et quand il est réciproque, il a une force beaucoup plus grande. Vous voyez, je pensais de comparaison quand manuellement on a quelque chose de très lourd à porter, très difficile à porter, et qu'on a un ami à côté, un camarade, on lui dit « viens, aide-moi, on va arriver à porter ça à deux ». Et on se met à deux et on le porte. Je me dis toujours, comme c'est très difficile pour l'intelligence de remonter jusqu'à Dieu, d'en voir vraiment la nécessité, voir que l'intelligence est obligée d'affirmer tout ce qui est imparfait réclame quelque chose de parfait. Tout ce qui est imparfait est toujours second et résulte quelqu'un de premier. Saisir la profondeur de ce principe, de le saisir comme un principe qui fait partie de mon être, je ne peux pas rejeter. Et c'est grâce à ça que je peux m'élever jusqu'à un être premier. C'est vraiment l'opération la plus difficile de l'intelligence, la plus grande, la plus importante. Si je suis convaincu que c'est très difficile, je demande à un ami, est-ce que c'est très bien de me donner tes bras, ta force pour porter. Est-ce que tu pourrais pas me donner quelque chose de ton cœur et de ton intelligence? On serait à deux à découvrir qu'il existe un être premier. J'y avais jamais pensé. Il n'y a pas longtemps que j'y ai pensé. Je me suis dit, mais pourtant, c'est tellement normal, ça. D'être à deux, en s'aimant profondément, et en découvrant profondément ce que c'est que l'autre, que nous soyons tous les deux ensemble, à nous dire, cherchons l'existence de l'être premier. Et mettons notre intelligence, notre cœur à l'unisson. Et tous les deux, dans notre amour mutuel, qui montre notre grandeur, comment l'ami est ma fin, comment je suis la fin de mon ami, mettons ça en commun et ensemble. Soulevons cette pierre tombale qui m'arrête, qui m'empêche de remonter jusqu'à Dieu. Si nous sommes deux intelligences à l'unisson qui découvrons qu'il existe un être premier qui est Dieu et qui découvre que cet être est nécessairement caché, invisible à mon regard ordinaire, peut-être qu'à nous deux, notre intelligence sera plus apte à comprendre comment cet être si admirable, si grand, qu'est la personne humaine. C'est beau une personne humaine, c'est grand. Et puis c'est tellement grand quand on aime cette personne, de voir la noblesse de son intelligence, de voir la pureté de son cœur et de mettre ça en commun à deux, on affirme c'est nécessaire. Il existe nécessairement un être premier, Dieu, qui est l'amour pur, l'amour substantiel, un amour simple, une intelligence limpide dans cet amour. On découvre un Dieu qui est une personne. Quels sont les êtres les plus parfaits que je découvre comme être, comme existant? Ce sont les personnes. Et donc, l'ami est une personne pour moi, et la personne la plus parfaite que je connaisse, et la plus aimable, la plus attirante. Alors, l'ami unit à son ami dans un effort commun, en prenant ce même principe, tout ce qui est imparfait dépend du parfait. Tout ce qui est si grand, mais imparfait. Tout ce qui nous unit, et c'est beau, et cependant notre union n'empêche pas que mon ami meure. On est très unis. On n'est pas victorieux de la mort. La mort s'impose, la limite s'impose, et je ne peux pas l'effacer. Parce que mon être n'est pas de moi. S'il était de moi, je voudrais le donner à mon ami. Je ne peux pas grandir mon être. Je peux grandir le plus que je peux, mon intelligence, mon cœur, mais mon être, non. Il est limité. Et mon ami peut, avec moi, faire ce chemin, m'aider, me soutenir. Il peut m'aider, mais il n'enlève pas ma limite. Ma limite dans mon être s'impose comme une fatalité. C'est pas une fatalité. Elle s'impose nécessairement. Et donc, cette limite, elle dépend d'un autre. Elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas de mon ami. Elle ne dépend de personne. Tous ceux qui sont autour de moi ne peuvent pas dépendre de moi, parce qu'ils sont comme moi, ils existent, ils sont, mais ils sont limités. Ils ne sont pas maîtres de leur être, ils ne sont pas maîtres de l'acte d'être qu'ils ont, de leur existence. Même s'ils ont des amis, ils restent, et la limite se voit encore mieux. Parce qu'elle se voit mieux chez l'ami que chez moi. Je vois toujours beaucoup mieux les limites de l'ami dans son être que chez moi. Et c'est en ce sens-là que l'ami me rend plus lucide. Et je vois avec plus de force dans mon ami cette qualité merveilleuse qu'il a dans son être. Un être intelligent, éclatant d'intelligence. Un être admirable qui aime. Et je le vois mieux dans mon ami qu'en moi. Et c'est pour ça que mon ami me sert pour affirmer l'existence d'un être premier, en qui intelligence et amour ne font qu'un, en qui intelligence et être ne font qu'un, entre qui l'amour et être ne font qu'un, cet être dont je dépends radicalement, mais qui se cache sous mon être, et qui à certains moments se manifeste. Mais se manifeste en demeurant caché, se manifeste comme une exigence que je suis obligé de poser, qui demeure caché. C'est merveilleux de voir que grâce à l'ami, ce saut périlleux d'une intelligence qui, voyant ce qui est en acte en moi, du côté de mon intelligence, du côté de ma volonté, j'exprime, élève tout. Tant que je suis limité dans mon être, et que mon ami est limité dans son être, il ne peut pas être pour moi l'absolu. Il n'est qu'un compagnon. Il faut longuement réfléchir sur ce contraste étonnant dans une seule personne. Sa grandeur, son intelligence et sa limite. Et voir que je ne peux alors que découvrir la nécessité de poser cet être premier, qui explique cette composition en moi du parfait et de la limite, et qui explique en l'ami cette dualité de sa perfection et de sa limite, et qui me permet de poser quelque chose qui est avant, dont je dépends radicalement dans mon être.